Ce qui s'impose à nous aujourd'hui avec force, c'est restaurer la confiance dans les conditions d'exercice du métier de chercheur et de chercheuse, c'est réhabiliter la positivité des savoirs qu'ils produisent dans le domaine des sciences sociales, c'est aider à reconnaître que ces savoirs, quand bien même ils sont critiques à l'égard de la réalité, ne sont pas une menace, mais une ressource aidant à transformer notre rapport au monde. Michel Zancarini-Fournel est ce soir notre invité à l'occasion de la publication avec Claude Gauthier d'un livre qui s'intitule « De la défense des savoirs critiques, quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Brigitte Fontaine.
Aujourd'hui, c'est comme un mal de cœur dans un avion taxi. C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jeté sur canapé ou zone dangereuse. C'est le fourrouble noir d'un appareil photo au fond d'un urinoir dans les quartiers prolo. Un bouillon de 11 heures et des ongles vernis. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est l'oiseau de malheur des élus de Paris. C'est comme une moto chargeant un bal masqué, ou comme un torero déguisé en marié. Et son voile géant traînant dans l'eau glacée, c'est un prince charmant tout à ragoût pygmé. Un orage de fleurs dans un bain de minuit. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. Un quartier pourri, un tremblement de terre au fond de l'océan, un pot-au-feu grand-mère cuisiné en gants blancs. C'est comme un peu de poudre dans une veine bleue, ou comme un coup de foudre prêt à vider les lieux. C'est la nuit des chasseurs, le démon de midi, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est un oiseau chanteur gardé par des spahis. C'est un tapis de fleurs dans le moine de Marie. C'est une affaire d'honneur sur un dessus de lit. C'est un vieux dictateur incendié par la foule. C'est une histoire de cœur dans une bouteille saoule. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est une étoile en pleurs filante en plein midi.
C'est une vocation chercheuse pour vous, Michel ?
Une vocation d'enseigner, sans doute, de transmettre et de chercher aussi, oui, bien sûr.
Depuis quand ?
Depuis très jeune. J'ai commencé à 18 ans à me former pour être enseignante, donc ça fait longtemps.
Pourquoi ?
Parce que je pense que c'était important de connaître le passé pour se situer dans le présent. Et donc, voilà pourquoi j'avais envie d'enseigner. J'avais aussi pensé être journaliste, mais Mon père m'a dit que je ne mangerais pas assez en étant journaliste. Et donc, j'ai choisi d'être professeur.
Vous avez été élevé dans quel type d'éducation ?
Quel type qu'entendez-vous par cette question ?
Vos parents vous ont élevé dans des idéaux particuliers ?
Oui, mes parents, je l'ai un peu expliqué dans l'introduction des luttes et des rêves. Mes parents étaient des militants. Des militants communistes, et ils m'ont élevée, effectivement. Mon père ne voulait surtout pas que je devienne une journaliste militante. Et donc c'est pour ça que... Et ma mère était institutrice, et je pense que c'était important pour avoir cette idée-là de transmettre, justement, d'éduquer, de transmettre les savoirs, et que c'est important dans la vie, quoi.
Une chercheuse... Se doit-elle d'être autonome dans son jugement et dans sa manière de travailler ? Doit-elle être indépendante ?
Autonome, oui, bien sûr. Autonome dans sa manière de réfléchir, de penser. Indépendante, je pense que la recherche est aussi collective. Elle est collective au sein d'équipes de recherche. Elle est collective au sens... Dans l'écriture, hein, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages avec d'autres personnes. Donc, il y a les deux. C'est-à-dire que l'autonomie de pensée, oui, mais l'indépendance, et l'indépendance, mais indépendance qui n'est pas isolement.
Du passé, faisons table rase, disaient certains slogans. Au contraire, vous pensez que du passé, nous ne devons pas faire table rase, mais... nous nourrir pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive en ce moment.
Absolument. On se pose à la fois des questions à partir du présent, au passé, et donc on revoit le passé, si on peut dire, d'une autre manière, peut-être de la manière dont il a été écrit, mais aussi on s'inspire de ce qui s'est passé pour comprendre un peu, pour faire naître... peut-être des idées, d'autres idées, en s'appuyant sur l'expérience des autres dans le passé.
Que se passe-t-il en ce moment, selon vous ?
En ce moment, il y a deux phénomènes. En tout cas, du point de vue de, si vous parlez de la recherche, il y a l'introduction très forte du pouvoir politique dans la recherche. Du gouvernement, des ministres, du président de la République. Il y a aussi une montée de l'extrême droite qui n'est pas spécifique à la France. Hein. J'entendais les nouvelles de résultats des élections au Portugal hier. Et pour la première fois depuis très longtemps, il y a un mouvement...
Oui, mais c'est un parlement socialiste qui arrive au pouvoir.
Certes. Mais l'extrême droite a, je crois, 8% des voix, alors que depuis la chute de Salazar, il n'y avait pas eu d'expression de l'extrême droite. Ceci pour dire que la France n'est pas isolée dans cette, malheureusement, ce cours des choses.
Fait-on assez attention à ce que on nomme les classes populaires ? Et vous êtes une historienne des classes populaires, Michel Zancarini-Fournel, et ce depuis longtemps. Vous aviez fait un gros ouvrage justement sur la lutte et les rêves, qui était une histoire populaire des révoltes depuis 1685 jusqu'à nos jours. Et vous notez dans ce livre que le mot populaire a pris la place du mot ouvrier. Pourquoi ce mot populaire et pourquoi cette disparition de ce mot classe ouvrière ?
Parce que les milieux populaires ont toujours été plus diversifiés. Je commence effectivement cette histoire en 1685, c'est-à-dire à la fois au moment de l'adoption de ce qu'on a appelé plus tard le Code Noir, enfin du statut juridique des esclaves, et puis de l'interdiction aux protestants d'exercer leur culte. Pour dire vite les choses. Donc cette question-là interroge l'ensemble des groupes populaires, qu'ils soient esclaves ou protestants, dans leur rapport avec le pouvoir, hein, les groupes subalternes, plus exactement, j'emploie plutôt le terme subalterne que populaire, et la classe ouvrière, c'est un... ça a été forgé donc au 19e siècle et aussi au 20e siècle, et ça désigne une partie de la population qui a travaillé dans les usines et qui travaille dans les usines et les ateliers, mais qui est une fraction, une partie, même si elle était importante, de la population. Et la classe ouvrière était incarnée pendant longtemps par des partis, des syndicats, des associations. Et cette incarnation est sans doute en diminution forte aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle le terme même de classe ouvrière est moins employé que celui de classe populaire aujourd'hui. En particulier, la jeune génération d'historiens, d'historiennes parle aujourd'hui de classe populaire.
La révolte des Gilets jaunes, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, est-elle une révolte des classes populaires ?
Alors j'ai un peu travaillé sur les Gilets jaunes, hein. J'ai un peu travaillé, mais c'est une révolte effectivement de classes populaires, très différenciées, c'est-à-dire que les gens qui ont fait l'ethnographie des ronds-points, par exemple, ont montré qu'il y avait des personnes qui étaient dans des positions sociales différentes, c'est-à-dire aussi bien, par exemple, des petits patrons, des artisans, des femmes isolées, seules, des retraités. Enfin, il y avait une diversité des positions sociales, mais qui avaient les mêmes conditions, qui discutaient des conditions de vie qu'ils ne supportaient pas, avec quelque chose qui aujourd'hui d'ailleurs revient en force.
C'est-à-dire, donc cette révolte ne s'est pas éteinte encore aujourd'hui ?
Non, je ne crois pas. Parce que vous qui êtes une spécialiste
des révolutions, mais des révolutions qui s'incarnent par des manifestations monstres dans la rue, mais aussi des révolutions mentales qui perdurent à bas bruit dans la société. Vous pensez que ce mouvement des Gilets jaunes continue à infiltrer une forme de résistance au pouvoir actuel?
Oui, c'est une force, je pense, alors qui a pris beaucoup de coups, hein, parce qu'il faut dire qu'il y a eu une répression très très forte des manifestations, il y a eu un nombre important de blessés graves, etc. Donc forcément, ça... Il y a quand même quelque chose qui est problématique après de manifester dans la rue, vu cette violence, on peut dire, contre les manifestants. Mais je pense que la réflexion sur quelles sont les conditions de vie aujourd'hui, et en particulier, par exemple, la hausse des carburants, ou le fait que quand on habite en périphérie ou à la campagne, on a besoin de se déplacer, et donc qu'on a besoin d'utiliser la voiture, entre autres, et des voitures qui sont pas toujours des voitures très très modernes, on peut dire. Et donc c'est quelque chose de fondamental, ça. C'est la vie aussi des gens. Les gens sont allés habiter loin des centres-villes parfois, et ils sont obligés, pour travailler, de se déplacer. Les familles se sont plus ou moins divisées. Il y a des femmes seules avec enfants qui sont dans des difficultés réelles. Il y a des vraies poches de pauvreté féminine. Donc tout ça, c'est des conditions qui sont dites, et les gens exprimaient pour la première fois, peut-être, dans des lieux tout à fait particuliers, ces ronds-points, hein, ou dans les manifestations, de forme très particulière aussi par rapport à d'autres manifestations, ils exprimaient qu'ils refusaient d'accepter les contraintes qui leur étaient imposées.
Cette contestation du pouvoir, en tout cas officiellement, s'est un peu essoufflée. Est-ce dû à un état un peu morose de l'opinion publique des Français, dû en partie à la pandémie, ou est-ce dû à l'état d'exception qui rend difficile toute possibilité de contestation et de manifestation publique, Michel Zancarini ?
Je dirais les deux, parce que je crois qu'effectivement, la pandémie a stoppé. Elle a stoppé, même si après, par des contestations juridiques, le droit de manifester a été rétabli, on peut dire. Cet état d'urgence, enfin, qui a été introduit maintenant dans la loi, donc qui n'est plus un état d'urgence, mais l'état d'urgence sanitaire, fait qu'il n'y a pas de possibilité, on peut dire, de rassemblement, même pour les personnes, certes minoritaires globalement, mais qui souhaiteraient le faire. Et en plus, si je prends l'exemple des universités, par exemple, les universités ont été fermées. Elles ont été fermées, elles sont restées fermées longtemps, au détriment d'ailleurs de la vie, tout simplement, des étudiants, de leur possibilité de manger, de trouver des petits boulots, en fait, toute une série de choses.
C'est un thème qui est très peu abordé dans la campagne présidentielle actuelle, l'état des universités.
Certes, c'est très peu abordé, parce que je crois que le pouvoir actuel a fait passer, justement, à marche forcée une loi qui s'appelle la loi de programmation de la recherche, LPR, qui a été votée alors que les universités étaient fermées, qu'il n'y avait aucune possibilité de réaction éventuelle, que les réactions qui existaient ont été stoppées à cause de la pandémie, et contre une grande partie du mouvement, une partie des étudiants et une partie des enseignants-chercheurs et des universitaires, cette loi a été adoptée et donc maintenant que c'est adopté, il n'y a plus besoin d'en discuter. C'est une université qu'on prépare. D'ailleurs, il y a eu des annonces faites par le président de la République selon lesquelles on allait continuer dans cette voie-là d'une université libérale qui est d'université concurrentielle entre elles et que cette ceci donc explique qu'il y ait une certaine forme d'anomie, on pourrait dire, de réaction. Ce sont les deux voix que vous proposiez.
Mais je vous propose justement d'écouter la voix d'Emmanuel Macron sur les universités. C'est un discours qu'il a prononcé pour le 50e anniversaire du congrès de la Conférence des présidents d'université. C'était le 13 janvier 2022, c'est très récent donc.
Il faut bien le dire, en France, nous avons construit et nous avons trop longtemps accepté un modèle à plusieurs vitesses, avec d'ailleurs une forme de, là aussi, de dogme qui s'était installée. Guy Ribarne avait cette formule d'une forme d'aristocratie égalitariste, qui correspond exactement à ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Les grandes écoles et organismes de recherche était supposé s'occuper de l'excellence et de la formation des élites et les universités, de la démocratisation de l'enseignement supérieur et de la gestion des masses. Ce système est révolu. Il est révolu d'abord parce qu'il ne correspond pas à la compétition internationale, parce que sa forme même crée des barrières, des segmentations qui sont inefficaces, et c'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à lever tous ensemble. Demain, ce sont nos universités qui doivent être les piliers de l'excellence, le centre de gravité pour la recherche comme pour la formation. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez avec les grands sites universitaires ces dernières années. C'est ce qui, à partir des IDEX et de toute cette tendance, cette dernière décennie qui a été lancée, c'est ce que nous avons commencé à consolider, qui a, sur le terrain, dans la vraie vie, cassé beaucoup des barrières qui pouvaient exister, mais on doit parachever ce mouvement. C'est d'ailleurs exactement ce même sens de l'histoire que j'ai voulu aussi pour la formation de notre haute fonction publique, en souhaitant que les universités jouent un rôle accru au sein de l'Institut national du service public, qui à partir du 1er janvier de cette année a remplacé l'ENA, dans un monde en mutation où, considérant que la formation de notre haute fonction publique devait être ancrée avec le monde universitaire, le monde de la recherche, et participer à ces grandes transformations.
Nous venons d'entendre le président de la République, c'est très récent, puisque ce discours a été prononcé le 13 janvier dernier. Et vous, avec Claude Gauthier, Michel Zancarini-Fournel, vous sortez un ouvrage ces jours-ci qui est un véritable pavé dans la mare, un ouvrage important pour parler de notre avenir, parce que les jeunes, c'est notre avenir, les universités, c'est aussi notre avenir, où vous vous inscrivez en faux contre ce que vient de dire le président de la République. Car vous expliquez historiquement, politiquement, idéologiquement comment le pouvoir, incarné depuis maintenant 5 ans par le président de la République, mais les pouvoirs précédents aussi, n'ont cessé de vouloir rendre les universités efficaces, les universités rentables sur le plan de la gestion et les universités indépendantes les unes des autres pour pouvoir mieux s'autofinancer. Dans un esprit qui n'est pas celui d'une recherche qui pourrait être désintéressée et bienfaitrice pour tous, mais peut-être d'une recherche beaucoup plus efficace.
Oui, alors, pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment, et pour déconstruire, c'est le mot à la mode, pour déconstruire donc le propos du président de la République, il s'insurge contre un modèle à plusieurs vitesses, l'excellence des élites, etc. Or, pour la pandémie, si les universités étaient fermées, comme on nous l'a dit, les classes préparatoires, elles, sont restées ouvertes dans les lycées et ont accentué cette dichotomie de l'enseignement supérieur, qui est en partie propre à la France, entre système des grandes écoles et système universitaire. Alors, université, compétition internationale, là aussi, ça fait sourire quand on entend le ministre de l'Éducation nationale ou la ministre de l'Enseignement supérieur s'en prendre à l'américanisation de la recherche et au fait que des États-Unis nous viendraient des courants destructeurs de l'université, alors sous le différents termes qui varient d'ailleurs.
Cancel culture, wokisme,
etc. Et bon, alors, université d'excellence, grand site universitaire, ça veut dire qu'on sépare en deux l'université, entre un certain nombre d'universités, de sites, alors que bizarrement, on essaye de regrouper en ayant le plus grand nombre possible d'étudiants pour être dans le classement de Shanghai, qui est donc contesté par beaucoup, mais bon, peu importe. Donc, grand site universitaire, et à côté de ça, faire une université qui serait une université de collège universitaire, sans recherche, justement, qui permettrait de parquer, si je peux dire, je mets des guillemets bien sûr, les étudiants et étudiantes, et laisser la place à cette université d'excellence. Donc, en plus, parler de la transformation de l'ENA en Institut National de Service Public, c'est vraiment la question de l'utilisation de la langue pour dire des termes qui, en fait, ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire que l'ENA change de nom. Est-ce qu'elle changera? Est-ce que l'école changera de formation, de recrutement, etc.? Point d'interrogation. Cet usage de la langue dans des mots qui sont, comme autonomie, qui sont donnés sans arrêt, compétition internationale, entre en contradiction, en fait, avec les réalités, autofinancement des universités, et c'est là qu'on met en avant justement le fait qu'on souhaite de plus en plus que les universités se débrouillent, donc l'État se désengage financièrement. Donc il y a deux solutions, soit trouver dans le privé donc des sources de revenus, soit faire payer les étudiants et étudiantes. C'est-à-dire, pour le dire crûment, bien que ça ait été démenti, l'augmentation des frais universitaires, en disant que l'enseignement supérieur ne peut pas être gratuit. Voilà, donc une recherche efficace, oui, il y a une internationalisation de la recherche aujourd'hui, et tant mieux. Il y a un échange, il y a une globalisation de la recherche, elle est efficace aussi par les échanges entre chercheurs et chercheuses, et sans... voilà.
Vous décrivez, Michel Zancarini-Fournel, une situation qui perdure depuis longtemps, quels que soient les partis politiques et les présidents de la République, puisque je me souviens que Valérie Pécresse était ministre des universités et qu'elle avait mené, d'ailleurs dans une contestation assez vive de la part du corps enseignant, cette réforme qui a réussi à s'imposer de l'autonomie des universités. Donc, par-delà les querelles politiciennes, ce qui nous intéresse ici, et je crois que c'est le message de votre livre important, c'est qu'il y a une volonté du pouvoir en place, et quels qu'étaient les pouvoirs en place précédemment, mais encore aujourd'hui, maintenant, en ces temps de campagne présidentielle, comme une sorte de peur de la part du pouvoir en place pour essayer de mettre en fonctionnement une université qui les gênerait, qui les contesterait leur mode de pensée, leur mode de gouvernance, les universitaires et les étudiants feraient-ils peur au pouvoir en place? Et de plus en plus peur?
Je ne suis pas sûre que ça soit la peur qui ait guidé les réformes de l'université. Il faut dire effectivement, comme vous l'avez souligné, que quels que soient les pouvoirs en place, cette réforme est, enfin, avance inéluctablement depuis une vingtaine d'années, puisqu'on a commencé par le processus de Bologne en 1999, alors que c'était Claude Allègre, ministre d'un gouvernement socialiste, qui a commencé à mettre en place ce système européen, donc, d'uniformisation des diplômes, qui permettait aussi, et ça les étudiants en profitent parfois, d'aller d'une université à une autre en Europe et d'équivalence de diplômes, mais aussi de mettre à disposition de l'université, enfin d'organiser l'université de façon à ce qu'elle soit organisée sur un modèle libéral. Et c'est donc ce qu'a acté la loi LRU, qui était donc préparée et votée de la même façon que la dernière loi, c'est-à-dire votée pendant l'été, tout de suite après l'élection de Nicolas Sarkozy, et préparée par Valérie Pécresse, qui était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et cette loi LRU, dont la mise en œuvre s'est étalée donc en 2007 jusqu'en 2009, avec la réforme du statut des enseignants-chercheurs et la réforme de la formation des enseignants, a effectivement suscité des réactions vives, à la fois des étudiants, ce sont les premiers à avoir réagi en 2007, et des enseignants en 2009 essentiellement aussi, pour dire que non, ils ne voulaient pas de cette réforme, parce qu'ils ne voulaient pas de cette transformation de l'université. Et ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est avec cette étude de ce qu'on peut appeler les transformations de l'université dans le temps présent, de mettre ça en regard d'autres périodes historiques où l'université avait été aussi transformée, avec des réactions aussi pour des raisons diverses selon les contextes historiques, avait été aussi transformée comment s'était comportée, donc comment l'autonomie des universités avait été ou non défendue. Et on a pris comme situation emblématique, mais on aurait pu en prendre d'autres, mais on a pris le moment de la constitution de l'université républicaine et de l'affaire Dreyfus, et puis le moment du post-68 avec la réforme Edgar Faure et une série d'autres réformes dont Antoine Prost avait dit en 68, l'université est morte, c'est une autre université qui s'est construite, et c'est cette université où il y avait plus de possibilités d'autonomie et de discussion entre pairs, il y avait des conseils dans lesquels on discutait, et c'était cette université-là qui est en train d'être mise à bas aujourd'hui, avec la diminution de toutes les instances de discussion entre représentants, on peut dire, et donc un pouvoir plus grand donné à l'organisation, enfin aux présidences d'université.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Michel Zancarini-Fournel pour notre plus grand bonheur, Archichep.
Et je dirais que, dans une large mesure, ma réaction aux événements du mois de mai-juin a été partiellement une réaction de patriote français. Je trouvais que c'était un peu humiliant pour la France de voir la société se décomposer comme elle s'est décomposée au mois de mai.
C'est-à-dire, Raymond Aron, que vous pardonnez plus facilement à Cohn-Bendit qu'au professeur qui disait « bravo Cohn-Bendit ».
Je pardonne le plus difficilement au professeur qui, ayant pendant des années refusé toutes les réformes, alors que pendant 10 ans je ne cessais de dire qu'il fallait réformer, se sont découvert tout d'un coup une vocation révolutionnaire, quand la vocation révolutionnaire était la meilleure façon d'éviter les difficultés avec les étudiants. Alors là, vous pourrez dire que j'ai le goût des difficultés.
Car
il m'aurait été facile de dire, ça fait 10 ans que je vous l'annonce. Et la dernière fois que j'ai parlé à l'Assemblée de la Sorbonne, au mois de décembre, puisque j'ai quitté la Sorbonne au mois de janvier, j'ai parlé pour la première fois au moins 3/4 d'heure, en leur disant que la situation actuelle était impossible et qu'on allait vers des troubles évidents si l'on se refusait à prendre l'une ou l'autre des mesures concevables. Alors quelqu'un m'a dit que j'étais futuriste, que j'anticipais sur l'avenir. L'avenir, c'était 6 mois plus tard, même pas, 4 mois plus tard.
Nous venons d'entendre successivement Archichet, puis vous avez reconnu la voix de Raymond Aron. C'est une archivina du 8 juillet 1975. C'était au micro de Jacques Chancel. Il s'exprimait sur sa vision de mai 68. Et vous, dans votre ouvrage, Michel Zancarini-Fournel, avec Claude Gauthier, vous analysez de manière passionnante le rôle des intellectuels et donc... Dans ces intellectuels, il y a des universitaires, dans la prise de conscience de l'opinion publique française, dans les grands moments de notre histoire contemporaine. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'affaire Dreyfus a été un moment de coalescence pour l'engagement des intellectuels. Et puis ensuite, il y a eu mai 68. Vous êtes une spécialiste, entre guillemets, de mai 68, puisque vous avez publié des ouvrages et de nombreux articles aussi sur mai 68. Et sur mai 68, vous dites, dans ce nouvel ouvrage, que finalement, le rôle de l'intellectuel s'est complètement scindé. D'un côté, il y a eu les Raymond Aron, et de l'autre, il y a eu les intellectuels engagés. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, cette dichotomie, cette division en deux camps de l'intellectuel perdure, selon vous ?
Oui, alors effectivement, j'ai écrit sur mai-juin 68 et ses suites, on peut dire. Et dans le livre, on a analysé ce qu'a été la réforme Edgar Faure, ce qu'elle a changé dans l'université l'opposition, on peut dire, qu'elle a eue à la fois de la droite et de l'extrême gauche aussi, parce qu'elle instaurait la participation étudiante à la gestion de l'université. Alors, pour répondre à votre question, en 2022, oui, je crois que cette dichotomie perdure. Elle est sans doute différente du point de vue numérique, mais ça c'est autre chose. Et elle perdure avec aussi une grande différence, c'est que la séparation, la dichotomie entre la gauche et la droite est moins affirmée, on peut dire, qu'elle ne l'a été. C'est-à-dire qu'on voit des penseurs, des intellectuels de gauche. Enfin, se prononcer donc avec d'autres intellectuels plutôt de droite sur de la même façon sur les mêmes sujets, et en particulier avec cette ce que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cet épouvantail que représenterait l'américanisation de la recherche, l'internationalisation de la recherche, l'épouvantail des nouvelles des nouveaux savoirs qui sont développés en particulier par la jeune génération de chercheurs et de chercheuses qui concernent les questions de genre, les questions de race, les questions de discrimination. Et donc cette dichotomie effectivement perdure. Alors Raymond Aron, effectivement, puisqu'on l'a entendu, a été ce qu'on peut appeler un spectateur engagé. C'est-à-dire il s'est engagé en particulier en écrivant toute une série d'articles au fur et à mesure des événements de mai-juin 68 qu'il a réuni dans un volume en septembre 68, je crois, qui s'appelait « La révolution introuvable ». Et donc, il y a un fort engagement personnel et politique de cet intellectuel donc au moment de mai-juin 68.
Alors, il y a à la fois une évolution des intellectuels, de certains intellectuels. Il y a aussi une autre définition qui est en train de se transformer à la fois psychologiquement et sociologiquement. C'est ce qu'on attend aussi des universités. Quel est le contenu des enseignements? Et on a vu, depuis le début de cette année 2022, une contestation de la part du ministre de l'Éducation nationale, qui a participé, qui a été le premier orateur dans un colloque qui s'est tenu en janvier de cette année autour des valeurs qui mettraient en péril l'enseignement universitaire. Comment expliquez-vous et êtes-vous d'accord pour dire qu'on franchit un nouveau pas de défiance de l'enseignement universitaire vers notre jeunesse ? Michel Zancarini-Fournel.
Oui, je crois, mais il y a aussi un nouveau pas qui est assez étonnant, plus que de la défiance du ministre de l'Éducation nationale par rapport aux grands penseurs français de la seconde moitié du XXe siècle, quand il traite de virus Derrida, Foucault, Lyotard et j'en passe. Donc, si vous voulez, on est quand même un peu surpris d'entendre le ministre de l'Éducation nationale traiter ces philosophes français de virus, et en disant qu'il leur faut un vaccin. Donc, c'est au-delà même, si vous voulez, de la jeune génération. Alors, pour ce qui concerne la jeune génération, effectivement, et c'est là... C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, que justement un certain nombre de réactions par rapport aux nouvelles recherches qui sont faites autour des questions de genre, de sexualité, de race, du postcolonial, du décolonial, etc., qui sont faites en partie par la jeune génération de chercheurs et chercheuses, qui étaient socialisés différemment que la génération précédente des intellectuels français, qui ont été marqués par une socialisation, en particulier les intellectuels de gauche, par le marxisme. Et donc c'est cette opposition-là, elle est forte, c'est une opposition politique, mais c'est aussi une opposition générationnelle.
Et une opposition idéologique, selon vous ?
Idéologique à coup sûr, oui. Idéologique à coup sûr, c'est-à-dire que c'est la question de refuser de prendre en compte l'analyse de la société telle qu'elle peut être faite avec des méthodes tout à fait éprouvées du point de vue méthodologique et épistémologique, c'est-à-dire des différentes disciplines, que ce soit la sociologie ou que ce soit l'histoire, ou d'autres, hein, mais je pense à ces deux disciplines en particulier, et donc refuser de considérer qu'un certain nombre d'études puissent être prises en compte parce qu'elles décrivent une réalité, ou des réalités plus exactement, que l'on ne veut pas voir, si vous voulez. Que l'on ne veut pas voir, et surtout, on ne peut pas prendre en compte ce que la recherche pourrait apporter à la réflexion pour mettre en œuvre des politiques publiques qui permettraient de transformer ces réalités.
Nous allons entendre la voix d'un homme que vous citez à l'intérieur de cet ouvrage qui nous permet de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la voix d'Aimé Césaire. Parce que ce que je n'ai pas dit aux auditrices et aux auditeurs depuis le début de cette émission, Michel Zancarini-Fournel, c'est que vous êtes aussi une historienne du féminisme, et que d'ailleurs, dans ce nouvel ouvrage, vous parlez aussi du féminisme et de l'enseignement qui est donné à l'intérieur de nos universités, notamment à partir du genre, ce que contestent beaucoup d'hommes au pouvoir actuellement. Mais vous dites aussi, dans des ouvrages précédents, que le féminisme s'est alimenté à la lutte contre l'esclavagisme. C'est un point de vue que vous n'êtes pas seul à édicter, mais c'est un point de vue qui est contesté par certains universitaires qui sont proches du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Et je voudrais vous faire écouter la voix d'Aimé Césaire. Parce que quand on écoute Aimé Césaire aujourd'hui, qui va parler de négritude et de l'invention de ce mot négritude, on se dit qu'on assiste peut-être à un retour en arrière. On écoute la voix d'Aimé Césaire, c'était le 26 juin 1993.
On a beaucoup attaqué, vous savez, ce malheureux terme de négritude. Je ne sais pas s'il est très heureux, peu importe. Mais en fait, ce qui me frappe depuis longtemps, c'est l'acharnement avec lequel on présente de la négritude, non pas un portrait, mais une caricature. Et on s'est imaginé que cette négritude était une séparation de plus et constituait une sorte de racisme. Même lorsqu'on disait qu'il s'agissait d'un racisme antiraciste, mais on prononçait quand même le mot racisme. Or, je me souviens bien, j'ai essayé de me reporter, et à l'époque où se situe la naissance de la négritude, et ces conversations que j'avais avec Damas, avec Singer et quelques autres quartiers latins, et c'est un des problèmes sous lesquels nous avons toujours buté. En réalité, nous sommes des universalistes, nous sommes des humanistes, et peut-être là, il y a la composante à la fois africaine, car il y a un humanisme africain, mais enrichi et développé par l'humanisme français. C'est absolument incontestable, et nous ne sommes pas prêts à renier cette part de notre héritage.
Alors, quand on entend Aimé Césaire, et qu'on se dit qu'il y a des universitaires de haut renom qui contestent les études postcoloniales aujourd'hui en France, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de ne pas vouloir réouvrir des plaies, entre guillemets, de notre propre passé pour ne pas avoir à les examiner? Est-ce qu'on se dit qu'on ne veut pas savoir qu'on vit dans un pays où, selon la couleur de peau, on est plus ou moins arrêté, même si on ne dénie pas la réalité? Que se passe-t-il, Michel Zancarini-Fournel? Est-ce qu'il y a un nouveau cycle d'études universitaires qui contesterait le pouvoir et la vision que se fait du pouvoir, son propre pouvoir, pour la réassurance du pouvoir?
Non, je crois que l'extrait que vous avez passé de Aimé Césaire est extrêmement intéressant, parce que justement il questionne la question de l'universalisme, dont on dit aujourd'hui qu'il est décrit par les mêmes personnes qui refusent ces études-là, dont on dit qu'il est décrié, etc., que les gens ne veulent plus de l'universalisme. Justement, vous avez fait allusion aux études de genre et aux études féministes, et si vous voulez, la question a été justement de se poser la question par rapport à l'universalisme. Et si on a dit que la lutte des femmes est contemporaine et ça se rapproche de la lutte contre l'esclavagisme, c'est justement parce que ces discours-là se sont formés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au moment où on discutait justement de la des formes de l'universalisme. Et ce que dit Césaire, et nous avons conclu le livre là-dessus, c'est que évidemment il n'y a pas du tout de mise en cause de l'universel dans ces études, mais ces études plaident pour un universalisme pluriel, c'est-à-dire ouvert à la diversité. Et nous concluons le livre par des citations de Glissant, d'Édouard Glissant, qui montrent justement cet échappement, on peut dire, à des assignations identitaires fortes, mais pour un partage, on peut dire, une créolisation, il dit, une hybridation, donc des identités rhizomes. Il emploie le terme, donc reprenant le terme de rhizome à Deleuze. Et donc, c'est extrêmement important. Et cette façon de concevoir les choses montre que, bien sûr, il faut se rendre compte des réalités, c'est-à-dire il y a quand même toute une série d'études qui ont été faites très précisément montrant que les personnes noires ou les personnes arabes de type arabe sont beaucoup plus contrôlées que d'autres personnes et que il ne s'agit pas de réouvrir les plaies du passé, mais il s'agit de connaître l'histoire des événements, ne pas repousser l'histoire des événements qui ont aussi fait l'histoire à la fois de la France hexagonale mais de ses colonies. Et à partir de cette histoire-là, une fois qu'elle sera connue, dite, intégrée, enseignée, pouvoir justement aller au-delà de ces plaies et de ces fractures dans la société française.
Dernière question, Michel Zancarini-Fournel, on va retourner au début de l'émission. Dans ce prologue, vous écrivez que vous voulez aider à reconnaître que ces savoirs, les savoirs, donc, quand bien même ils sont critiques à l'égard de la réalité, ne sont pas une menace, mais une ressource aidant à transformer notre rapport au monde. Serions-nous arrivés dans un temps où nous n'avons plus du tout envie de savoir ce qui ne correspond pas à une réalité?
Je ne sais pas si on peut en faire une généralité, mais il est certain qu'il y a des savoirs qui ne sont pas acceptés par les politiques publiques, qu'ils soient hommes ou femmes. Et donc, c'est une question qui est effectivement problématique d'entendre une description des réalités qui ne correspond pas à l'idéal que eux ou elles imaginent pour le pays.
Merci beaucoup, Michel Zancarini-Fournel. Je rappelle qu'avec Claude Gauthier, vous sortez ces jours-ci un livre intitulé « De la défense des savoirs critiques, quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche ». Et vive les étudiants et vive les enseignants. Merci beaucoup.
deep in my throat. You put your hands in his shirt. You play him records I show. You read him Sylvia Plath. I thought that that was our thing. You know I like you like that. I hate that son of a bitch.
We've been best buds since 13. But that don't change the things I feel.
C'est avec Arlo Parks que nous allons nous quitter ce soir. Le livre de Michel Zancarini-Fournel et de Claude Gauthier vient de paraître aux éditions de La Découverte. Merci à Julien Dumont qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Mougin et Marie Clément. Et bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission après le prochain journal. Top chrono numéro 1 de la nouvelle série de Very Good Trip de Mishka Assayas.